Alors, j'ai légèrement modifié le titre, c'est assez subtil. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, c'était Diachronie et langue ancienne, une approche spécifique, et c'est devenu langue ancienne et diachronie, une approche spécifique. C'est un petit peu subtil. Simplement, je me suis dit qu'il était plus, enfin voilà, dans ma vision des choses, il était plus logique pour moi de commencer par parler de l'objet langue ancienne avant de parler de la perspective diachronique. Donc voilà, je vais envisager les choses dans cet ordre-là. Alors, langue ancienne et diachronie, ça correspond d'un côté à un domaine d'étude, la langue ancienne, et de l'autre à une perspective, un type d'approche, donc l'approche diachronique. Alors, je commencerai par rappeler que diachronie, c'est un terme qui a été forgé par Saussure, pour penser la dimension évolutive de la langue, la mutabilité du signe linguistique, donc je le cite, et synchronique, tout ce qui se rapporte à l'aspect statique de notre science, diachronique, tout ce qui a trait aux évolutions. De même, synchronie et diachronie désigneront respectivement un état de langue et une phase d'évolution. Donc le terme a été proposé par Saussure, même si dans les faits, Saussure n'en a pas fait grand-chose par la suite, mais que la diachronie lui a surtout servi à penser en creux la synchronie. Alors, langue ancienne et diachronie, on opère parfois un amalgame entre les deux. En particulier, les collègues modernistes opèrent parfois cet amalgame, à savoir qu'on tente à penser que quand on travaille en diachronie, on travaille nécessairement sur la langue ancienne. Ça n'est pas nécessairement le cas, même s'il est vrai que c'est souvent le cas. On peut très bien, et c'est souvent le cas, travailler sur la langue ancienne dans une perspective synchronique, donc s'intéresser à telle période et envisager les phénomènes dans une perspective statique, pas dans une perspective évolutive. Et puis, à l'inverse, on peut avoir une perspective diachronique sur la langue moderne. On peut considérer l'évolution de tels phénomènes dans les 50 dernières années, en particulier pour les phénomènes oraux, puisque c'est dans le registre de l'oral, peut-être que les choses bougent le plus rapidement. Donc voilà, même si dans les faits, souvent les diachroniciens travaillent sur la langue ancienne, je voulais insister sur le fait que ça n'est pas par définition coextensif, et d'autant moins que langue ancienne, c'est un objet d'étude, et que diachronie, c'est un type d'approche. Alors, très brièvement, une petite mise au point terminologique, parce qu'on entend parler de linguistique historique, synchronique, diachronique, on se mélange parfois un petit peu. Alors, une première opposition est faite entre linguistique historique et linguistique diachronique, à savoir que la linguistique diachronique s'occuperait uniquement, de la langue même et ne tiendrait pas compte de l'histoire externe, des facteurs externes qui peuvent intervenir, alors que la linguistique historique prend en compte non seulement la langue elle-même, mais l'histoire externe. Et les deux, donc linguistique historique et diachronique, s'opposent à la linguistique synchronique, qui envisage les phénomènes, les faits de langue dans une perspective statique non évolutive. Alors, ça, c'est pour la théorie. Dans la pratique, on s'aperçoit que souvent, linguistique historique sert à désigner toute étude qui porte sur la langue ancienne, qu'elle soit ou non dans une perspective évolutive diachronique. Voilà. Mais au départ, il y avait cette opposition qui était faite. Alors, premier point, donc, travailler sur une langue ancienne. Alors, je rappellerai tout d'abord que ça a été une évidence pendant des siècles. Pendant des siècles, on a travaillé sur le latin. On a commencé à s'intéresser parce que c'était la langue de prestige. À partir du XVIe siècle, on a commencé à s'intéresser, à avoir une activité réflexive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas du tout avant. Mais disons qu'on a systématisé l'activité réflexive sur le français contemporain, c'est-à-dire sur la langue du XVIe siècle. C'est à cette époque qu'on va voir émerger les premières grammaires du français du XVIe siècle. Et puis, peu à peu, alors je résume vraiment très, très grossièrement, peu à peu, on a commencé à s'intéresser aux états plus ancien du français, c'est-à-dire qu'on s'est tourné vers les origines du français, mais non pas l'origine très lointaine et prestigieuse qu'était le latin, mais l'origine plus immédiate et nettement moins prestigieuse, mais on a fini par s'y faire, qu'étaient donc les états anciens du français, disons à partir du 10e, 11e siècle. Donc dès le 16e siècle, et puis cette activité d'étude de la langue ancienne va prendre plus d'ampleur à partir du 18e, avec les premières éditions de textes littéraires, donc activité philologique qui va connaître véritablement, enfin, un véritable essor à partir du 19e siècle, pardon, puisque vont se multiplier les éditions de textes. Donc ces études philologiques et grammaticales ont permis peu à peu, donc c'est quelque chose qui s'est fait vraiment de manière accumulative, ont permis progressivement de mettre au jour des propriétés. Alors, je parle des fois de français ancien, c'est une espèce de terme générique, vague, volontairement, qui désigne donc des états anciens du français. Alors ça peut correspondre à une période assez délimitée, 12e, 13e siècle, mais ça peut être quelque chose de plus vaste aussi. C'est vraiment une commodité, langagière. Donc ces études philologiques et grammaticales ont permis progressivement de mettre au jour des propriétés de la langue. Alors, j'en arrive au point auquel je voulais arriver. C'est le fait que il a toujours été évident de travailler sur une langue ancienne, même si l'objet considéré a pu varier. Hein. Comme je l'ai dit, on a eu du mal à lâcher un peu le latin pour s'intéresser aux origines françaises, si je puis dire, plus romanes du français. Mais le fait même d'étudier un objet linguistique très reculé dans le temps et pour lequel il n'y avait plus de locuteur, pendant longtemps, n'a pas posé problème. Alors, c'est une évidence qui est un petit peu moindre aujourd'hui, je vais y venir. Je vais y venir à travers cette question donc de travailler sur une langue sans locuteur vivant, évidemment, et les conséquences méthodologiques que ça peut avoir. Alors j'avais mis, mais bon, on va passer rapidement, hein, j'avais mis quelques petits extraits de textes donc d'anciens français et du 15e siècle pour bien vous rappeler qu'on n'a pas du tout la compétence pour ces états de langue, on n'a pas la compétence, mais ça, d'une certaine façon, ça n'est pas extraordinaire dans la mesure où ça se produit dès qu'on travaille sur une langue étrangère, mais on n'a pas non plus, évidemment, d'informateur. Donc, ça vaut évidemment pour l'ancien français, ça vaut encore pour le moyen français, le XVIe siècle. Et même si on a l'impression qu'on comprend mieux, qu'on est beaucoup plus à l'aise, qu'on se sent familier de textes du XVIIe ou du XVIIIe siècle, reste qu'il y a encore des écarts comparativement à la langue que nous parlons. Alors, le fait que nous n'ayons pas la compétence pour travailler sur la langue ancienne, en l'occurrence le français ancien, donc cette absence de compétence exclut une certaine méthodologie qui s'est développée depuis quelques décennies maintenant. Méthodologie qui passe par la formulation de jugements d'acceptabilité fondée sur l'introspection des locuteurs. Alors, jugements d'acceptabilité qui vont se formuler, en général, c'est binaire, hein, il y a rarement de graduation en termes de possible, pas possible, tel énoncé possible, pas possible, grammatical, pas grammatical, etc. Donc, quand on n'a pas la compétence d'une langue, on ne peut pas formuler de jugement d'acceptabilité et on ne peut pas non plus manipuler les énoncés, donc outil méthodologique qui est largement utilisé, au moins dans certains paradigmes théoriques, pour des états de langue contemporains. Et on ne peut donc pas émettre ce que Milner, dans son livre de 89, appelle un jugement différentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jugement différentiel ? Le principe de ce jugement différentiel est que tout ne peut pas se dire. Il suppose donc qu'il y a un impossible en langue. Toutefois, cet impossible de langue n'est pas un impossible matériel. Autrement dit, une donnée de langue peut être possible matériellement, c'est-à-dire attestée, et impossible en langue ou inversement. Donc, ce qui est important, c'est que ce que Milner appelle le possible de la langue et le possible matériel, c'est-à-dire les données qui sont attestées, peuvent ne pas coïncider. Or, le problème, si on peut dire, c'est que pour la langue ancienne, le possible en langue et le possible matériel tendent à être coextensifs dans les faits et par principe. Hein, puisque ce qui nous permet depuis des siècles d'établir le possible en langue d'une donnée langagière, c'est précisément le fait qu'elle est attestée, observable, et les textes étant donc notre seul outil d'appréhension de la langue. Donc, ça signifie que ce mode de raisonnement, hein, l'établissement d'un jugement différentiel, et donc le jeu qu'il peut y avoir d'une certaine façon entre le possible en langue et le possible matériel, tout ça, ça correspond à un mode de raisonnement c'est même pas un problème de validité pour la langue ancienne, c'est pas qu'il est valide ou pas valide, c'est tout simplement qu'il n'est pas véritablement pertinent pour la langue ancienne. On a un objet radicalement différent, la langue ancienne, comparée à une langue avec des locuteurs, et donc on a nécessairement une méthodologie différente. Alors, j'ai dit qu'on n'a pas la compétence de la langue ancienne, mais on peut, quand on est très fort, on connaît bien la langue, on peut néanmoins recourir à ce qu'on pourrait appeler une intuition de reconnaissance. Alors, Marc Elonisia, dans son livre de 95, utilise le terme de compétence de reconnaissance. Bon, je trouve que le terme compétence est un peu chargé d'un point de vue théorique, donc voilà, j'ai préféré prendre celui d'intuition. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intuition de reconnaissance? C'est tout simplement la construction progressive de la connaissance de la langue par l'étude des grammaires, donc les grammaires qui existent, et par la fréquentation qu'on peut avoir des textes. C'est vrai qu'à lire des textes, je pense que si on lit un texte et qu'on n'a aucune base, on aura du mal à se construire notre grammaire. Mais avec des bases, en lisant des textes, on enrichit notre connaissance grammaticale de la langue. Sachant évidemment que ça n'aura jamais rien à voir avec ce qu'on qualifie de grammaire intérieure, c'est-à-dire la grammaire que nous avons acquis spontanément de notre langue maternelle. Donc, possibilité de recourir à une intuition de reconnaissance, mais on peut finalement se demander pourquoi, enfin, à quoi est-ce que ça sert, si on part du principe qu'il n'y a pas d'écart entre possible de langue et possible attesté, que le possible de langue est toujours impossible à tester, finalement, à quoi ça sert de mobiliser cette intuition de reconnaissance? Alors, ça peut quand même servir. Ça peut servir sur les données attestées. Ça peut permettre de déterminer le caractère plausible ou non d'un apax. Alors, apax qui violerait une règle établie, après vérification, évidemment, qu'il ne s'agit pas d'une coquille éditoriale. Donc, quand on est face à un apax qui viole une règle établie, il y a différentes configurations qui peuvent apparaître. Soit il s'avère finalement que cet apax n'en est pas un et ça n'est donc pas un cas isolé, mais on trouve d'autres occurrences d'une construction, d'une forme analogue, et on peut faire l'hypothèse qu'on a là l'amorce d'un changement dans la langue, c'est-à-dire que quelque chose qui n'était pas possible en T0 est en train de devenir possible en T1, donc il faut revoir la règle, mais il faut aussi admettre que cet apax finalement ne viole pas une règle établie, mais correspond plutôt à une règle qui est en train de se mettre en place. Si en revanche cet apax se révèle bel et bien isolé, Plusieurs interprétations sont possibles, sachant qu'on a bien du mal à trancher entre les différentes possibilités. Soit c'est une faute, alors je mets évidemment le terme entre guillemets, du copiste ou de l'auteur, ou bien c'est un possible en langue qui n'avait pas encore été identifié, ou bien encore c'est un possible en langue qui serait propre à son auteur, à savoir que l'auteur aurait une grammaire différente. Alors je renvoie, je n'ai pas les pages en tête, mais je renvoie à cet égard à un passage toujours dans ce livre de Milner, Introduction à une science du langage, où il y a tout un développement sur les fautes de grammaire, enfin les prétendues fautes de grammaire de Martine dans une scène des femmes savantes de Molière. Et enfin, c'est intéressant l'analyse qu'en fait Milner, où il dit finalement, Martine, elle a sa propre grammaire et elle a un système qui est très cohérent. Mais ça n'est pas la grammaire dominante, hein, et ça n'est sûrement pas la grammaire de femmes qui la reprennent et qui la corrigent. Donc on voit que ce genre de faits, de préoccupations soulève deux questions. Ça soulève la question d'une part des usages et de la variation, et ça soulève d'autre part la question des basses fréquences. Alors d'une manière générale, on est je ne pense pas que ce soit propre à la langue ancienne, mais c'est peut-être encore accru parce que justement on a toujours que les textes et qu'on ne peut pas recourir à notre grammaire intérieure, à notre compétence de locuteur. C'est vrai que les basses fréquences sont toujours un problème. On ne sait jamais trop bien comment les traiter, qu'est-ce qu'il faut en faire. Les modèles statistiques ont aussi un petit peu du mal à les traiter. Bon, mais ça, c'est une autre question. En tout cas, la basse fréquence, enfin, le phénomène des basses fréquences peut faire basculer, enfin, peut amener à réinterpréter ce qui était considéré ici comme une règle, comme étant simplement une forte propension. Alors, un exemple de cela, en ancien français, le sujet pronominal, donc pronom sujet, quand il est en position préverbale, est disjoint. Disjoint, ça veut dire qu'il peut être séparé du verbe par un élément fort accentué. Donc, j'ai pris un exemple dans Jean est blonde, et elle tant le conforta qu'elle en sentait le remis. Donc, elle, le pronom sujet, est séparé du verbe par tant, et elle le réconforta tant qu'elle le remit sur pied. Mais les grammaires ne citaient aucun exemple, donc jusqu'à une certaine date, ne citait aucun exemple d'objet nominal intercalé entre le sujet et le verbe. Alors, je fais une petite parenthèse. Quand je dis aucun exemple d'objet nominal, j'y reviendrai tout à l'heure avec le problème de la posture un peu anachronique dans laquelle on est nécessairement. Effectivement, objet nominal, c'est nous, locuteurs du XXIe siècle, qui cherchons des objets nominaux intercalés entre le sujet et le verbe. Cette notion d'objet nominal n'a pas beaucoup de réalité dans la langue ancienne. Mais en tout cas, en tant que locuteur du XXIe siècle, enfin du XXe siècle, puisque c'est ce groupe en 75 qui a conduit à revoir un petit peu les choses, on constatait, on ne trouvait pas d'objet nominal intercalé entre le sujet et le verbe. Donc, il était tentant de conclure qu'il y avait là une espèce de propriété, de règle, qu'on pouvait trouver beaucoup de choses intercalées entre le pronom personnel sujet et le verbe, mais pas d'objet nominal. Et puis, il y a finalement quelques exemples qui ont été trouvés. En particulier, Skorup, dans son ouvrage de 75, mentionne deux occurrences. Alors, il y en a une qui appartient au franco-provençal et qui est très ancienne. Et puis, il y en a une autre qui appartient au roman de Thèbes. Donc, c'est l'exemple que je vous ai mis. Né il, le roi ne défia, né les rois, droit ne lui béa. Donc, il ne défia pas le roi et le roi de son côté ne lui refusa pas ce qui lui était dû. Donc, voilà. C'est une attestation qui ne viole aucune règle, puisque on sait qu'on peut trouver des éléments lourds, entre guillemets, entre le sujet et le verbe, et qui amène donc à reconsidérer cette propriété qu'on aurait pu vouloir mettre au jour, à savoir qu'il n'y avait pas d'objets nominaux. Donc on a quelques exemples qui prouvent que non, ça n'est pas le cas. Alors l'intuition de reconnaissance maintenant sur les données non attestées, à quoi est-ce que ça peut bien servir? À quoi est-ce que ça peut servir d'imaginer des choses non attestées? Est-ce que c'est intéressant de s'interroger sur l'impossible en langue, enfin de se poser la question à propos de certaines constructions, de savoir s'il s'agit d'impossibles en langue ou simplement de données qui n'ont pas encore été attestées? Alors la question qui vient derrière celle-là, c'est est-ce que toute donnée peut un jour être attesté? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on n'a pas encore exploré suffisamment de textes et que des choses totalement inédites pourraient surgir? Et donc, est-ce que tout est possible? Alors, certains adoptent ce type de position, enfin au moins dans le discours, donc position un peu provocatrice, extrême. Ça semble peu plausible, on peut quand même faire l'hypothèse qu'on a aujourd'hui exploré suffisamment de textes pour qu'on ne s'attende plus à découvrir des choses totalement extraordinaires. Donc on peut adopter en revanche une position qui est plus modérée et qui permet donc de prédire que certaines données qui ne sont pas attestées sont impossibles, qu'on ne les rencontrera jamais, tandis que d'autres le sont. On peut, je crois, affirmer qu'on ne rencontrera pas un énoncé tel que l'or appelle le chevalier il, dans la mesure où, alors que le sujet pronominal, pronom personnel, en position préverbale, peut être disjoint du verbe, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand il est en position postverbale, c'est-à-dire après le verbe, il est toujours conjoint au verbe, il ne peut pas être séparé du verbe par autre chose qu'un autre pronom conjoint. Ça, c'est une règle qu'on a toujours constatée, donc on peut faire l'hypothèse qu'on ne rencontrera pas cet énoncé. En revanche, on a un énoncé qui est « Le chevalier appelle l'Iroès ». Alors, j'ai interrogé autour de moi, c'est un énoncé tel quel qui ne se trouve pas dans la BFM. J'ai fait des sondages, personne ne l'a jamais rencontré dans aucun texte. Et pourtant, il est tellement prototypique de ce qui est possible en ancien français que c'est quelque chose qu'on cite assez souvent comme exemple, d'une part de l'existence d'une déclinaison et d'autre part de la souplesse de l'ordre des mots. Mais cet énoncé n'existe peut-être nulle part, dans aucun texte, et pourtant il est cité parce qu'il est prototypique. Alors, ce qui existe en revanche, bien sûr, c'est la construction, hein, la construction objet, verbe, sujet. Mais l'énoncé lui-même n'existe pas et pourtant il est hautement plausible. Donc, on voit que pour revenir, et puis j'arrêterai là-dessus, mais sur la position de Milner, on voit donc que le jugement différentiel peut s'exercer sur l'inattesté, mais qu'il s'appuie sur une intuition de reconnaissance qui reste fondée in fine sur ce qui est attesté. Donc on a là un type de jugement différentiel qui est quand même assez différent de celui qui peut s'exercer sur une langue contemporaine. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que du coup l'activité grammaticale se réduit, comme dit Milner, à celle d'un magnétophone? Est-ce qu'on en est réduit simplement à enregistrer des données? Alors on n'en est pas réduit à ça, mais effectivement, travailler sur une langue ancienne, ça passe avant tout par un enregistrement des données, c'est un préalable. Et toujours, alors enregistré entre guillemets, hein, toujours on cherche à explorer donc de nouveaux textes, à extraire de nouvelles données pour acquérir une meilleure connaissance de la langue. Alors, cette connaissance de la langue, elle passe par une activité de classification. Je ne veux pas trop m'étendre sur la classification, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et donc, j'en dis quand même quelques mots. On classe sur une langue ancienne, on classe potentiellement les choses, que ce soit en termes de partie du discours, en termes de fonction, on classe potentiellement les choses différemment de la manière dont on les classe en français moderne. Donc, activité de classification, mise au jour de propriétés et établissement de règles. Alors, une petite parenthèse, je ne l'ai pas dit, c'était un petit peu implicite. Bon, je parle de langue ancienne de manière un petit peu indistincte. C'est sûr qu'il y a une différence assez importante à faire entre, je dirais, la langue ancienne jusqu'au XVIe siècle et la langue ancienne à partir du XVIe siècle. À partir du XVIe siècle, on a des grammaires qui rendent compte de la langue de l'époque. J'ai dit les premières grammaires, donc c'est 1500, milieu du XVIe siècle. Donc on a à partir du XVIe siècle des témoignages en tant que tels de la langue de l'époque. Avant ça, on a des témoignages, des manières de dire, mais des choses qui sont beaucoup plus partielles et beaucoup moins systématiques. Donc, évidemment, la position n'est pas la même selon qu'on étudie une langue pour laquelle il y a des témoignages assez complets de l'époque sur la langue et les états de langue pour lesquels on n'en a pas du tout. Alors, j'ai dit mise au jour de propriété, établissement de règles, bon... On sait déjà beaucoup de choses, hein, on accumule des recherches depuis plus de 200 ans, mais n'empêche qu'il faut toujours compléter, amender, enrichir, et qu'il reste encore évidemment des zones qui ont été peu ou mal explorées, que ce soit du point de vue morphologique, syntaxique ou sémantique. Et donc, ce qui importe, hein, j'insiste sur ce point, c'est... explorer sans cesse de nouvelles données ou de nouveaux textes et de nouveaux genres permet d'enrichir notre connaissance. Le but étant de proposer une description de plus en plus fiable et donc d'essayer de limiter de futures invalidations de ce qu'on aura avancé. Hein, j'ai dit, on peut, quand on découvre de nouvelles données, on peut compléter, amender, voire invalider ce qui a été dit précédemment. Plus on aura exploré de données, plus on aura une vision complète. Donc, depuis tout à l'heure, je parle beaucoup des textes sans expliciter le rôle qu'ils jouent. Bah, la position des textes, quand on étudie une langue ancienne, elle est double. À la fois, ils servent d'outils et ce sont les objets d'étude. Alors, outils, parce que les textes sont le fondement direct ou indirect de notre connaissance. Hein. Ils sont à la base des grammaires qui se sont construites au fil des temps, des grammaires de la langue ancienne. Outils directs quand nous-mêmes, on apprend des choses à partir des textes. Et puis, les textes, forcément, sont notre objet d'étude. Hein. Étudier la langue ancienne, ça veut dire étudier les textes. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, les textes sont explorés pour étudier un phénomène. Alors, ça peut sembler un petit peu circulaire, hein, les textes qui sont à la fois l'outil de connaissance et l'objet qu'on étudie. Il y a une certaine circularité, à laquelle on échappe assez facilement, là encore, en explorant toujours de nouveaux textes, donc, qui permettent, là encore, de réviser, confirmer les propriétés qui auront été mises au jour précédemment. Alors, ces textes, on les étudie en général groupés, on constitue ce qu'on appelle un corpus, alors qu'il s'agisse de vouloir rendre compte d'une manière assez générale d'un état de langue ou d'étudier un phénomène beaucoup plus ciblé. En tout cas, toujours se pose la question de la représentativité du corpus, dans la mesure où notre appréhension de la langue ne passe que par les textes. Pour avoir la meilleure appréhension, la plus juste appréhension possible, il faut avoir un corpus aussi représentatif que possible. Donc la représentativité généralement se décline en termes de quantitatif et de qualitatif. Il faut avoir suffisamment de données, donc de mots occurrences, et puis qualitative aussi en termes de diversité, diversité des genres, des registres quand on peut. Alors, cette représentativité du corpus, néanmoins, elle est fortement variable selon le type de projet qu'on a. Hein. La visée n'est pas du tout la même selon qu'on veut faire une grammaire de la langue de telle époque ou bien qu'on cible un phénomène beaucoup plus spécifique. mais reste que donc les textes sont vraiment essentiels, aussi bien en ce qui concerne notre connaissance, je dirais héritée, hein, héritée des grammaires, que la connaissance que l'on construit en permanence. Alors, point suivant, cette langue ancienne qu'on étudie, c'est nécessairement un objet partiel. Donc, c'est celle des textes, hein, je le redis. Ça veut dire qu'on n'a aucun accès à l'oral. Bon, ben ça, c'est une donnée qui est posée d'emblée. Donc, on n'a pas d'accès à l'oral. On manque de données pour certains genres, pour certains registres. Peut-être même qu'on ignore certains genres, certains registres. Là encore, je pense qu'il y a eu suffisamment de recherches depuis des décennies pour qu'on puisse espérer avoir fait à peu près le tour de ce qui existait. Donc, pas d'oral, manque de données. On ne travaille donc, hein, pour reprendre une formulation de Haber qui rebondit lui-même dans son article sur une formulation de Sinclair, plus en langue ancienne encore que pour une langue moderne, on ne travaille jamais que sur des emplois déterminés d'une langue. Hein. Dire qu'on travaille sur la langue, c'est quelque chose d'un petit peu, comment dire, infondé. Enfin, le terme n'est pas juste. Alors, c'est un objet partiel, cette langue ancienne, alors soit prise dans sa totalité, pourquoi pas jusqu'à 1950 même, ou bien spécifiquement la langue de 1250. Donc c'est un objet partiel parce qu'on n'a pas, il y a des données qui nous échappent, on n'a pas d'oral, mais en même temps ça constitue un ensemble qui est clos. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'un jour on aura, bon, ben ça se produira, mais qu'on aura tout exploré, qu'on aura dépouillé tout l'existant. Et d'une certaine manière, on est dans une situation exactement inverse à celle de la langue moderne, où à la fois on a l'impression qu'on peut accéder à tous les registres, à tous les genres, à l'oral, mais en même temps, c'est infini. Il y a une production infinie d'énoncés qui fait qu'on ne peut pas plus accéder à cette totalité pour des raisons différentes. Donc le but du linguiste qui travaille sur une langue ancienne, bah, c'est proposer une représentation plausible de la langue décrite. Alors on m'a demandé récemment quels étaient mes critères de plausibilité. Je n'ai pas su bien répondre, mais c'est un but en tout cas. Il reste à établir les critères. C'est proposer des explications. Alors l'explication, je la réserve plutôt à la dimension évolutive de la langue. N'empêche que quand on met au jour des classifications, quand on établit des corrélations entre différents phénomènes dans un état de langue, quand on met au jour des systèmes, c'est une procédure explicative. Alors les deux risques majeurs qu'on encourt toujours, c'est d'une part formuler des généralisations abusives, donc là j'en reviens au problème de la représentativité du corpus, hein. Si on a un corpus trop peu représentatif, on peut généraliser alors que bah, finalement ce qu'on a mis au jour ne correspond qu'à ces quelques textes. Et puis l'autre risque, c'est ce que j'appelle la posture anachronique. Alors évidemment, on raisonne toujours en tant que locuteur moderne. Ça veut dire qu'on projette des classifications, des cadres d'analyse qui sont postérieurs pour la plupart aux objets qui sont étudiés. Alors qu'il s'agisse des parties du discours, alors les parties du discours sont encore un petit peu différents, hein, puisque ça remonte au grec, donc là pour le coup c'est contemporain du très ancien français, de l'ancien français, du moyen, mais avec les parties du discours telles qu'on les projette ne sont pas pour autant nécessairement, ne sont pas appréhendées de la même manière qu'elles l'étaient à l'époque contemporaine des textes qu'on étudie. On projette des fonctions syntaxiques. Fonctions syntaxiques, pour la plupart, elles ont vu le jour au XIXe siècle. La notion de complément a émergé au XVIe siècle en éliminant celle de régime. Enfin, tout ça, ce sont des notions qui sont assez récentes. Je n'ose même pas parler des catégories que j'appelle sémantico-pragmatiques du type marqueur discursif. Quelle était la réalité d'un marqueur discursif pour un locuteur du XVe siècle? Ça pose un petit problème. Et puis, on se sert aussi de cadres d'analyse qui n'ont pas nécessairement été conçus pour les états de langue qu'on utilise. Donc, une espèce de décalage entre les concepts, les catégories, les analyses qu'on fait et la langue considérée. Alors, cela dit, ce décalage, il, Il se produit dès qu'on lit un texte ancien. Quand on lit un texte, mais un texte moderne pareillement, hein, et même peut-être en premier lieu, mais aussi, je dirais, un texte ancien, on établit, on opère ce qu'on pourrait appeler une espèce de parsing spontané. Hein, on segmente, on catégorise, et on fait ça spontanément avec notre compétence de locuteur du XXIe siècle. Et ce, d'autant plus que toute édition, ou presque, restructure le texte des manuscrits. Alors, beaucoup qui travaillent sur la langue ancienne travaillent sur des éditions relativement modernes. Certains travaillent sur des manuscrits, mais c'est vrai que beaucoup travaillent sur des éditions modernes. Or, ces éditions modernes donc, ont restructuré le texte, notamment en le ponctuant à la moderne. Et je renvoie au travail d'Alexis Lavrentiev sur la question de la ponctuation. Et cette ponctuation est une sorte de manipulation du texte, hein, manipulation qui est acceptée, qui est implicite, mais qui nécessairement structure en retour la perception, notre perception du texte et la grammaire donc qu'on construit à partir de ce texte. Alors, rapidement, quelques problèmes plus concrets peut-être quand on travaille sur une langue ancienne. J'en aborderai deux principalement. Il y a la question de la variation. Alors, variation diachronique, on va y venir après. Variation diastratique, et donc catégorie sociale et diaphasique registre chez un même locuteur. Bon, là, on n'a pas beaucoup d'éléments hein, pour ces types de variations. Donc, à vrai dire, on n'a pas beaucoup de prise dessus. Variation diatextuelle hein, entre les genres. Et puis, ce qui est spécifique à la langue ancienne, au moins au français médiéval, c'est la variation diatopique et donc l'existence de dialectes. Ça sera moins prégnant à partir du XVIe siècle, hein, dès lors que l'imprimerie apparaîtra et que se développeront les grammaires. La variation de ce point de vue-là sera moins. Donc, vous savez qu'on a coexistence de différents dialectes en français médiéval, avec à l'écrit l'existence, ce qu'on a pu appeler une scripta transdialectale, hein, des traits dialectaux de différentes régions avec une dominance donc, de ceux de l'Île-de-France. Donc, variation dialectale, intercompréhension néanmoins. Mais ce qui m'importe surtout, c'est qu'il n'y a pas à l'époque de concept de propriété littéraire comme il peut y avoir aujourd'hui, à savoir que bien souvent le scribe est tiraillé entre son désir de respecter le texte qu'il copie et ses propres pratiques langagières, ce qui veut dire qu'un même texte, au sens émanant d'un auteur, recopié par des scribes différents qui vivent dans des régions différentes, à des époques différentes, peut présenter des variations assez importantes. Donc j'ai mis un petit exemple assez connu qu'on cite souvent, hein, c'est le début du lait de Lanval, avec donc des variations morphologiques assez importantes selon les dialectes et selon les périodes. L'autre problème que j'aborderai rapidement quand on travaille sur la langue ancienne, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est le problème, ou plutôt les problèmes de segmentation, contraction et classification. Alors c'est le problème bien connu, hein, qui n'est pas spécifique à la langue ancienne, mais le problème de la coïncidence entre les parties constitutives et les catégories, qui sont souvent coextensive dans les faits, mais pas par principe. Hein. Il n'y a pas coextension entre parties constitutives et catégories. En langue ancienne, dans la pratique, il arrive bien souvent que ça ne soit pas coextensif. Alors, un exemple, c'est la construction, c'est « en quelques lieux ». Qu'on trouve dans une phrase du Graal, comme s'il qu'il faisait porter au soi en quelques lieux que il alla. Alors évidemment, ce qui nous embête beaucoup, c'est le premier que qui est intercalé entre quel et lieu. Donc, il semble que ce soit une construction intermédiaire entre quel lieu que et quelques lieux que. N'empêche que là, on a un que qui, en tant que locuteur moderne, qu'on a beaucoup de mal à analyser et qui nous embête bien. Donc, on a ici une partie constitutive à laquelle on ne sait pas bien quelle catégorie attribuer. Et puis, à l'inverse, ben, on a des formes contractées. Alors, des formes contractées, on en a aussi en français moderne, mais beaucoup moins. Donc, elles sont beaucoup plus nombreuses en ancien français. Hein. Donc, contraction entre des pronoms personnels, entre la conjonction de subordination « se », donc notre « si » moderne et « il », entre la négation « ne » et des pronoms personnels. Donc, on a plein de contractions avec, là encore, hein, des problèmes de non-coïncidence entre parties constitutives et catégories. L'autre problème que l'on rencontre assez fréquemment, c'est la difficulté à catégoriser des unités et on se heurte donc à la question de la polycatégorisation, hein, donc le fait qu'une unité puisse avoir plusieurs valeurs, correspondre à plusieurs parties du discours. Alors, un exemple, bon, c'est vrai aussi hein, en langue moderne, mais c'est peut-être encore plus fréquent et plus problématique en langue ancienne. Alors, on a avec un certain nombre de personnes qui sont ici, donc un projet à la fois d'étiquetage morphosyntaxique et d'annotation syntaxique de textes de langue ancienne. Et on se heurte dans un certain nombre de cas à la question de savoir si la forme face à laquelle on est doit être étiquetée comme étant un infinitif ou comme étant un nom. Donc, j'ai mis un exemple. Merci Céline de m'avoir retrouvé les exemples problématiques. Host, j'affuste vous compain puisque je viens au dire voir, au dire vérité. Donc, le problème, c'est celui de l'identification en tant que catégorie de la forme dire. Puisqu'on a des indices qui sont contradictoires. On a l'indice déterminant qui tire du côté du substantif, mais on a aussi l'indice complément qui tire donc du côté de l'infinitif. Voilà. Et puis, peut-être que il ne faut pas trancher, et peut-être qu'on a une espèce de continuum entre les deux, et que vouloir absolument attribuer l'une ou l'autre catégorie n'est pas l'option la plus souhaitable. Bien, alors, j'en viens maintenant au deuxième point. Après avoir parlé de la langue ancienne, je serai plus rapide, c'est la perspective diachronique. Alors, j'aime bien toujours rappeler tout l'intérêt qu'il y a à étudier le changement dans les langues et à travailler en diachronie. Donc, ça permet une connaissance des états passés d'une langue, ça on l'a vu tout à l'heure. Ça permet, dans un certain nombre de cas, d'avoir une meilleure compréhension de la langue que nous utilisons aujourd'hui, d'où l'intérêt accru des collègues linguistes modernistes pour la langue ancienne et pour les études diachroniques. Ça permet parfois de formuler certaines hypothèses sur son devenir, et dans la mesure où on a constaté que toutes les langues changent et que c'est donc un trait universel, on peut considérer que c'est un trait de la faculté même du langage. Et donc, étudier le changement, ça peut nous permettre d'accéder à une meilleure compréhension du langage en tant que faculté cognitive. Alors ça, c'est un but à long terme quand même, et c'est forcément en comparant beaucoup de langues, hein. C'est pas simplement en travaillant sur l'évolution du français. Alors, je dis, ça peut permettre de prédire certaines choses. Donc, est-ce qu'on peut effectivement faire certains pronostics ? Alors, il y a dans beaucoup de langues, et en français en tout cas, ce que Marc Elonizia, je crois, a proposé d'appeler des macro-évolutions. Alors, ça a à voir avec la notion de drift qu'on rencontre chez Sapir, mais il n'y a pas cette visée téléologique qu'il y a dans la notion de drift. Donc, des macro-évolutions, c'est simplement le fait que certains phénomènes ou certaines constructions évoluent dans une direction analogue. Alors, en français en particulier, il y a eu au cours de l'histoire un processus de spécialisation entre des éléments de rôle et de nature différents. En particulier, on a opéré progressivement une distinction entre déterminants et pronoms pour l'ensemble des démonstratifs et pour bon nombre d'infinis. Donc, on peut faire l'hypothèse que s'il y avait de nouvelles évolutions qui se développaient dans ce domaine, ça irait dans ce même sens plutôt que dans une confusion entre forme et fonction. Alors, au-delà des macro-évolutions propres à une langue, on a pu mettre aussi au jour des ce qu'on appelle des chemins d'évolution en étudiant, là, pour le coup, des langues très, très nombreuses et surtout des langues appartenant à des familles de langues différentes. Donc, des chemins d'évolution, c'est très bien, il y a un ouvrage qui reprend bien tout ça de Heine et Kuteva, on a pu remarquer qu'il y a un chemin qui va de la personne ou de la partie du corps jusqu'à la qualité en passant par l'objet, activité, espace, temps. Bon, par exemple, en français, on a beaucoup de prépositions spatiales qui viennent de parties du corps, en face de, au dos de, à la tête de, etc. On a des prépositions temporelles qui viennent de l'espace, dans l'espace de, on a ça en anglais aussi, after, etc. Donc, on a des macro-évolutions, on a des chemins évolution, mais, donc ça pourrait permettre d'établir certains pronostics, mais il est vrai aussi qu'on a des évolutions cycliques, hein, typiquement le cas de l'évolution du futur en français. On est parti d'une forme synthétique en latin. En bas latin, s'est développé une périphrase analytique qui peu à peu a connu des mécanismes de coalescence et réduite pour donner notre futur synthétique moderne. Et au XVIe siècle, à nouveau, se sont développées des périphrases analytiques. Donc voilà, quelque chose de cyclique. On a quelque chose de cyclique aussi avec la négation. Donc pronostic toujours à établir avec prudence. Alors, étudier le changement, ça veut dire expliquer les changements. Et c'est bien là qu'est toute la difficulté de la démarche diachronique, dans la mesure où, idéalement, la démarche diachronique ne consiste pas à empiler des états synchroniques les uns au-dessus des autres, mais à expliquer justement comment on passe d'une synchronie à une autre synchronie. Donc, il ne s'agit pas simplement d'enregistrer les changements, mais de comprendre comment les changements se produisent. Alors, deux questions se posent en relation avec ça, avec le fait d'expliquer les changements. C'est comment ça se passe et pourquoi ça se passe. Alors, il y a évidemment des différences très, très importantes entre les domaines considérés, syntaxe, sémantique, phonétique, morphologie, et au sein d'un même domaine, entre les différents domaines. Alors, je dis tout de suite que moi, je m'intéresse plutôt à la syntaxe, à la sémantique et à la pragmatique, donc c'est surtout de ces domaines-là que je vais parler, beaucoup plus que de la morphologie et de la phonétique. Alors, rapidement, pour ce qui est des motivations, donc le pourquoi, bon, rapidement, parce qu'à vrai dire, c'est compliqué, on fait des hypothèses, mais il n'y a rien de sûr. Ce qui est sûr, c'est que, quand même, parmi les motivations, on tend parfois à les écarter, mais il y a parfois des facteurs externes qui peuvent motiver un changement. Pensons tout simplement aux réformes de l'orthographe. Donc, ça peut jouer un rôle. Parmi les facteurs internes, il y a des fois des effets dominos qui jouent, hein, à savoir que tel changement va s'expliquer par un autre changement qui a précédé. Et puis, dans un ordre d'idées totalement différent, hein, donc vous voyez, les motivations, c'est assez éclectique. On n'a pas de représentation bien, enfin, à ma connaissance en tout cas, bien précise de cet aspect du changement. Ça fait assez longtemps, Meillet, hein, déjà au début du siècle, a suggéré que le besoin d'expressivité pouvait être un facteur, une motivation et un facteur déclenchant du changement et renouvellement des formes. Donc, besoin d'expressivité qui a été reformulé un petit peu différemment par Keller, hein, dans La main invisible, où il prend davantage en compte l'interlocuteur et il parle du besoin de produire un effet. Bon, enfin, c'est à peu près la même chose. Alors, pour ce qui est maintenant du comment et des modalités, alors, si on se place à un niveau très, très, très surplombant, bon, je l'ai dit, on observe dans certains domaines, il y a des macro-évolutions donc, qui se produisent dans les langues, donc des évolutions convergentes. Mais la question, c'est de ça. Bon, d'abord, ça n'est pas systématiquement le cas. Il y a des phénomènes qui évoluent de manière isolée. Et puis, la question qui se pose, c'est de savoir comment, dans le détail, se produisent les changements. Que plusieurs changements convergent, c'est une chose, mais comment chacun des changements se produit. Alors, ce qu'on a pu observer de ce point de vue-là, tous les travaux qui ont été menés dans le cadre de la grammaticalisation, hein, depuis une bonne trentaine d'années maintenant, on fait pas mal avancer la réflexion et ont vraiment permis de mettre au jour des choses intéressantes, une approche totalement assez nouvelle. Ce qu'on constate, c'est que de nombreux changements sont initiés dans des contextes spécifiques, restreints, donc peu nombreux, s'ils sont spécifiques, souvent ils sont restreints, et ambigus. Et dans ces contextes spécifiques, restreints et ambigus, on voit parfois donc émerger une nouvelle valeur pour une construction ou une nouvelle construction. Donc nouvelle valeur, nouvelle construction qui peu à peu va se généraliser à d'autres contextes. Donc la difficulté, évidemment, consiste à repérer les contextes précurseurs, d'où toujours la nécessité d'avoir constitué le bon corpus, celui qui va nous permettre de repérer les contextes précurseurs et repérer aussi les traits qui ont pu favoriser le changement dans ces contextes. Donc j'insiste vraiment sur ce point, hein. C'est le fait que, je renvoie des travaux d'Elisabeth Troigott, entre autres, c'est le fait que les changements s'initient dans des contextes spécifiques. Les constructions changent dans des contextes spécifiques. Alors, j'ai dit contextes ambigus qui vont permettre souvent de tirer des inférences, hein, d'établir des inférences. Alors, je ne rentre pas dans le détail, parce que là, j'ai mis des exemples qu'on retrouve d'ailleurs à travers de nombreuses langues. Des exemples qui sont assez parlants d'eux-mêmes. Bon, aller est un verbe qui, à l'origine, dénote le mouvement, mais vous imaginez bien que dans certains contextes, l'idée de mouvement, enfin de l'idée de mouvement, peut se dégager une idée d'intention, parce qu'en général, quand on va quelque part, c'est qu'on a une intention, et à partir de l'intention, on a pu dégager l'idée de projection dans le futur. De même pour des expressions telles que dès lors que, puisque, qui étaient au départ des expressions temporelles, hein, qui dénotaient la postériorité. Donc, à partir de cette valeur temporelle, a pu se dégager une valeur causale, hein, selon ce principe bien connu, qui est que l'antécédent devient cause. Autre exemple, tandis que, alors que, qui marque la concomitance et qui en sont venus à dénoter l'opposition ou la concession. Alors, pour ces exemples en particulier, le nouveau sens se développe dans des contextes ambigus qu'on imagine, bon, j'ai pas trouvé d'exemple, mais qu'on peut assez facilement reconstruire. Quand vous dites il est sorti tandis ou alors qu'il faisait beau, il y a un scénario qui est assez, comment dire, qui est assez, enfin, non seulement plausible, mais qui est assez cohérent, qui n'est pas surprenant. Il fait beau, on sort, ça semble, c'est dans nos schémas de représentation. En revanche, quand vous dites il est sorti alors qu'il pleuvait, hein, toujours dans une, en voulant dénoter simplement la concomitance des deux événements, bah, il y a quelque chose de peut-être moins évident entre le fait de sortir, enfin, il va peut-être moins de soi que l'on sort quand il pleut. Voilà. Donc, on voit qu'à partir de là, peut progressivement se dégager une inférence d'opposition et enfin une nuance d'opposition et de concession. Alors, un exemple sur lequel j'ai travaillé, c'est la construction, enfin, c'est, oui, la construction, l'expression à ce propos. Jusqu'au XIVe siècle, à ce propos fonctionne comme un complément verbal qui est régi par le verbe et avec un verbe qui dénote une activité cognitive. Exemple qu'on rencontre très fréquemment, hein, c'est l'exemple de Dodin. Très claire manière de l'enseigner est ajouter exemple. Fin du discours. À ce propos, dit Aristote au premier livre, donc à ce propos qui complète le verbe. Et puis, alors je résume un peu grossièrement la chronologie, hein, c'est beaucoup plus fin, mais à la fin du XVIe siècle, en position préverbale, à ce propos, n'est plus du tout régi. Il introduit une remarque incidente avec un verbe qui n'est plus cognitif. Exemple suivant, on voit coutièrement et regarder les qui ne font autre chose qu'épier leurs belles et regarder les moyens d'en avoir. À ce propos, un jour de marché à Lyon était. Donc, vous voyez que c'est un exemple qui est radicalement différent du précédent. Hein. L'expression n'est plus régie, il n'y a pas de verbe de parole ou d'autres activités cognitives. Et puis, entre eux, ces deux types d'exemples, donc bien clairs, bien représentatifs, on a des exemples ambigus en ce qui concerne la dépendance rectionnelle de « à ce propos ». C'est l'exemple emprunté au sans nouvelles de Vigneul. Comme vous avez oui en la 68e nouvelle et de plusieurs autres, comme si devant ait été dit. Et à ce propos, je vous en veuille réciter encore une pour toujours multiplier le nombre. Donc voilà, la question qui se pose, c'est ici, est-ce que à ce propos est régi par réciter ou bien est-ce que à ce propos déjà fonctionne comme une sorte de remarque incidente. Hein. Donc j'ai paraphrasé, en anglais c'était plus facile de faire apparaître la distinction entre les deux. Donc c'est est-ce que c'est on the subject ou by the way. Voilà. Donc on a ici un énoncé où la construction peut être interprétée différemment. Donc voilà, exemple de contexte ambigu. Alors, le point suivant que je voulais aborder, c'est la question de la variation qui est au cœur changement, et cette idée qui a été développée par la sociolinguistique que l'hétérogénéité est constitutive des langues et que tout sujet parlant peut produire et interpréter des variations. Donc, cette approche a permis de dépasser le paradoxe du changement, hein, pourquoi est-ce que les langues changent et comment est-ce que font les gens pour se comprendre si ça change tout le temps, etc. Donc, c'est l'idée que le changement est le résultat d'une variation. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve déjà, cette idée qu'on trouve déjà chez Jacobson. Hein. Pendant un certain temps, le point de départ et le point d'aboutissement de la mutation se trouvent coexister sous la forme de deux couches stylistiques différentes. Un changement est donc, à ses débuts, un fait synchronique. Donc, toute variante est un candidat au changement. Tout changement comporte d'abord une étape de variation, mais néanmoins, toute variation ne débouche pas nécessairement sur un changement. La variante peut disparaître ou la variation peut se maintenir. C'est le cas pour la négation en français. Voilà. Donc, mais ce qui est important aussi, c'est que ce type d'approche a permis d'établir un lien étroit entre variation en synchronie et changement diachronique. Et puis ça permet aussi un petit peu de réconcilier la synchronie et la diachronie. Alors le dernier point que je voudrais aborder, développer en deux sous-points mais qui sont assez rapides, c'est la question du facteur temps. Évidemment, quand on travaille en diachronie, quand on travaille sur l'évolution, on traite du temps et c'est un gros problème ce facteur temps. Alors le temps se décline selon différents problèmes, si je puis dire. Se pose tout d'abord la question de la périodisation de la langue et de la chronologie des phénomènes qu'on étudie. Alors pourquoi est-ce que c'est problématique, hein? Parce que le temps c'est quelque chose de continu et que nous on essaie de discrétiser le temps pour pouvoir l'étudier. Donc on essaie de déterminer des ruptures dans un continuum. Alors, cette question de la discrétisation du continu temporel, elle se pose au niveau de la périodisation générale. Donc, on a, depuis maintenant un certain temps, établi des grandes périodes pour la langue. On parle de l'ancien français, du moyen français. Le moyen français, c'est Darmstädter au début du XXe. L'ancien français, je ne sais pas exactement si c'est plus ancien, si c'est en même temps. En tout cas, c'est très ancien. Plus d'un siècle, donc ancien français, moyen français, avec des critères qui ne sont que partiellement linguistiques. Hein. Les frontières des différentes périodes ont été déterminées en fonction de contextes historiques, littéraires aussi. On a des appellations qui révèlent bien tout le problème, toute la difficulté qu'on a à circonscrire des grandes périodes. À un moment donné, on parlait de la langue de la Renaissance pour désigner la langue du XVIe siècle. Donc, langue de la Renaissance n'était pas très linguistique comme appellation. Et alors, ce qui est vous aurez remarqué, c'est que ces grandes périodes, pour la plupart, correspondent à des frontières de siècles. Donc, comme s'il y avait une espèce d'homogénéité pendant un ou deux siècles, et puis, paf, au passage, entre deux siècles, on change de période. Donc, forcément, il y a beaucoup de changements qui se produisent. Donc, on a des découpages, bon, avec lesquels on vit, hein, et on survit, et on pas trop mal avec, mais qui sont en partie artificielles, et en particulier cette coïncidence avec les frontières de siècle est largement artificielle. Alors, plus récemment, d'autres propositions ont été faites, en particulier on a introduit la notion de français préclassique, hein, qui irait de la moitié du 16e à la moitié du 17e siècle, davantage envisagée sur des bases linguistiques. Donc, ce sur quoi simplement je veux insister, c'est que ces découpages en grandes périodes, certes, correspondent quand même à une réalité, mais sont aussi une sorte de compromis et sont finalement une toile de fond sur laquelle on va étudier certains phénomènes plus spécifiques. Alors, pour en venir aux phénomènes plus spécifiques qu'on étudie, ce qui apparaît assez clairement, c'est que chaque phénomène qui évolue, chaque changement a sa propre chronologie. On a souvent dit que l'ordre des mots commençait à bouger en moyen français. Quand on dit l'ordre des mots, c'est beaucoup trop vaste. Marc Elonisia a montré que la position de l'objet a déjà largement bougé au XIIIe siècle, alors que la position du sujet ne commencera à bouger qu'à partir du XIVe, et ce pendant au moins trois siècles. Hein. Donc chaque phénomène a sa propre chronologie, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que une diachronie n'est jamais donnée dans l'absolu. Hein. À chaque fois, à chaque phénomène qu'on étudie, il faut construire une diachronie. Alors, il y a plusieurs questions qui se, c'est assez concrètes, qui se posent quand on veut, quand on veut essayer de construire une diachronie pour étudier un phénomène, et donc sélectionner les textes qu'on va faire entrer dans le corpus pour étudier ce phénomène. Comment est-ce qu'on discrétise le temps, hein? Disons, je veux étudier la position du sujet du XIIIe au XVe siècle. Il faut couper quand même, il faut délimiter des sous-périodes à l'intérieur. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on discerne les frontières où se produisent les changements? Mais comment est-ce qu'on établit finalement des synchronies? Donc j'ai dit qu'avoir une approche diachronique, ce n'est pas simplement empiler des synchronies, c'est expliquer comment on passe de l'une à l'autre. N'empêche qu'il faut d'abord établir des synchronies pour ensuite envisager comment on passe de l'une à l'autre. Donc ces synchronies, est-ce que quand je décide d'étudier tel phénomène du début du 14e à la fin du 15e, est-ce que je dis, je vais faire des synchronies de 30 ans, tous les 30 ans, ou tous les 50 ans, ou je prends des synchronies de 50 ans, ou de 10 ans, ou de 5 ans? Voilà, c'est un certain nombre de questions qu'il faut se poser à chaque fois. Et ce sont des choix qui mettent en cause, évidemment, la granularité du découpage qu'on opère sur le continu temporel, et qui mettent en cause aussi la conception de la nature même de l'évolution, à savoir est-ce que les changements sont brusques ou progressifs. Alors, c'est le dernier point que j'aborderai. Le facteur temps et le rythme des changements. Alors, rapidement, y a deux manières d'envisager les changements. Il y a l'approche qui voit les changements comme étant catastrophiques, c'est-à-dire se produisant brutalement. C'était l'approche de la grammaire générative pendant très longtemps, qui considérait que les changements ne pouvaient s'opérer que par l'acquisition d'une nouvelle grammaire, donc que par un changement de génération. Cette position a été revue par la suite, en particulier grâce aux travaux de Romaine et par tous les développements de type sociolinguistique qui ont montré qu'un locuteur peut maîtriser plusieurs grammaires et qu'il ne faut pas donc nécessairement un nouveau locuteur pour qu'on change de grammaire. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'un changement peut être brutal chez un locuteur, mais ensuite mettre un certain temps à se propager à l'ensemble des locuteurs. Alors, le dernier point, c'est la question de la vitesse des changements. Hein. Donc, il y a le le rythme. Et puis, il y a la vitesse. Hein, si on admet que les changements sont plutôt progressifs. Là encore, hein, je considère plutôt les domaines de la syntaxe, de la sémantique et de la pragmatique. Dans le lexique, les choses sont différentes, en particulier par les emprunts qui peuvent être faits d'une langue à l'autre. On peut avoir des changements beaucoup plus brutaux. Alors, l'idée, c'est que tous les changements ne sont pas à la même vitesse. Ça va probablement pas à la même vitesse dans le domaine sémantique, syntaxique, phonétique, mais dans un même domaine, les différents phénomènes n'évoluent pas non plus à la même vitesse. C'est compliqué parce que étudier un phénomène, c'est souvent considérer différentes dimensions. Un phénomène, il inclut souvent une dimension syntaxique, sémantique, morphologique. Un phénomène qui évolue, j'entends. Donc, est-ce qu'il faudrait, dans l'étude d'un phénomène qui évolue, distinguer différentes vitesses d'évolution selon qu'on considère sa dimension plutôt syntaxique ou phonétique ou pragmatique ? Bon, d'une part, c'est excessivement difficile, on en a guère les moyens. Et puis, de toute façon, il n'est pas forcément souhaitable de vouloir disséquer un phénomène qui évolue. Tout est lié d'une certaine manière. Donc, ma démarche est d'essayer de repérer, enfin, comme de nombreux diachroniciens, je crois, de repérer les étapes du changement à travers les textes. Alors, plus spécifiquement, c'est d'essayer de dégager une chronologie qui est liée au genre des textes. Alors, c'est vrai que j'ai travaillé pas mal sur certains types d'expressions qui se sont d'abord développées dans certains genres de texte, hein, plutôt les textes argumentatifs, donc la dimension typologie textuelle est très importante, et puis c'est dégager aussi une chronologie qui est liée au contexte textuel, et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, identifier les contextes où se produisent les premiers changements et déterminer pourquoi, donc arriver à mettre au jour les traits distinctifs qui mettent en route, qui font qu'il y a changement. Alors, dernière chose et j'en aurai fini. Il y a un modèle théorique du changement qui a été proposé par Heine, qui est un modèle en 4 étapes, qui vaut pour certains, là encore, hein, qui ne vaut pas pour tous les types de changements, qui marche assez bien pour les phénomènes, on va dire, syntactico-sémantiques. Donc le sens original, construction d'une inférence. Donc ça, c'est le contexte. Il y a ensuite le contexte de bascule ou le second sens, le sens qui s'est construit par inférence tente à prendre le dessus. Et puis il y a enfin la dernière étape où il y a une sorte de conventionnalisation des nouvelles valeurs. Donc c'est un modèle qui est très séduisant, qui dans le cadre de la variation est tout à fait acceptable. Pardon. Mais dont, évidemment, la mise en œuvre concrète reste assez difficile, à savoir que il faut bien avouer qu'on a parfois du mal à repérer le bridging context et le switch context, à faire la part entre les deux. Et que la seule chose tangible et sûre sur laquelle on puisse s'appuyer, si tant est qu'on a un corpus construit, un corpus qui est suffisamment représentative, c'est l'évolution des fréquences et c'est la collecte, je dirais, quantitative au départ qui permet ensuite de produire certaines interprétations plus qualitatives. Mais donc, ce qui vraiment nous permet de, enfin, ce qui est à la base, hein, de finalement pour travailler sur le changement, c'est les fréquences des différents phénomènes. Et il est sûr que de ce point de vue, le développement de la linguistique de corpus et le recours de plus en plus massif que l'on peut faire aux données informatisées nous simplifie grandement la tâche, nous aide. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'ai mis les références à la fin.